Europe 1 Culture Média.
9h, 11h. Pascal Clark.
Bonjour, bonjour. À quoi ça tient ? Oh ben à rien, à presque rien. 90 minutes de frustration, 90 minutes de commentaires dépités. Giroud sur Europe 1, n'y croyant plus du tout. Les Parisiens étaient déjà quasiment installés dans la zone d'embarquement pour le retour Lisbonne-Paris en avion. Ni Neymar, ni Mbappé ne parvenaient à le faire entrer ce fichu ballon dans les buts de l'Atalanta. Les Italiens glissaient tranquillement vers la demi-finale quand Marquinhos a égalisé. Oui, on l'oublie un peu ce matin. Avant de gagner, il a d'abord fallu égaliser à la 90e, car c'est Choupeau qui a pris tous les bravos. Eric, Maxime, Choupeau, Moting, dit Choupeau, passé l'espace d'un éclair de quasi zéro, tête de turc total des réseaux sociaux, à Choupeau, le héros. Parole de supporter au micro de Julien Froment.
Qui s'attendait à un but de Choupeau-Moting ? Honnêtement, c'est moi, honnêtement. Le brassard est le numéro 10 pour Choupeau, dès maintenant.
On se calme, jeune homme. À quoi ça tient ? Choupeau aurait dû quitter le PSG le 30 juin pour rendre service. Il a accepté de prolonger son contrat de 2 mois, les heures sup les plus héroïques de l'histoire. Ce matin, dans Culture Média, le rappeur Akhenaton est notre invité après 10h. Nouvel album solo Astéroïde et la tournée d'Ayam qui doit normalement reprendre en septembre. Le PSG est qualifié et Akhenaton est dans Culture Média. Admirez l'audace. Quel climat à la fin du mois pour le premier grand rendez-vous cinéma de la rentrée, Salle été dans les salles et très belle affiche dans 15 jours au Festival du film d'Angoulême. Question sur ce paradoxe à Dominique Besnéard. Autre invité, Gabriel Dédier, un livre, un doc sur Arte, combat contre l'invisibilité des gros dans l'espace public. Culture Média d'été en direct jusqu'à 11h. Cœur sur votre journée. Et cœur sur vous immédiatement, Martin Cangelosi, bonjour.
Ben moi aussi, bonjour Pascal, bonjour
à tous.
Il
le fait là, on dirait qu'il a marqué un but là.
Si vous saviez, moi et le foot.
Ah non, rien, non. Rien du tout.
Vous voulez toujours pas me dire votre club préféré ?
PSG.
Ah enfin, vous le dites.
Ah, parce qu'ils sont qualifiés sinon.
Fred Moratti va être content de l'apprendre.
Alors, place au journal des médias, néanmoins, hein, si on peut, c'est possible.
On va essayer 9h09.
Martin, qu'avez-vous aujourd'hui sous votre parasol avant qu'il ne s'envole.
Oui, bien, Téléfoot, J-4, des photos qui n'auraient jamais dû circuler. CNews fait du copier-coller et ça ne matche plus.
Les audiences, vite s'il vous plaît, j'en peux plus les audiences.
Alors, vite,
Martin.
Alors vite, hier c'est TF1 qui s'impose avec sa série Magnum, 3,2 millions de téléspectateurs. Juste après, France 2 avec sa série Nina, 1,5 million de téléspectateurs. Et M6 talonne France 2 avec Zone Interdite sur les parcs d'attractions, 1,4 million de personnes devant M6.
Culture Média.
Quel budget exactement pour voir le foot ? La chaîne Téléfoot officialise ses abonnements. Elle se lance lundi.
Eh bien, Téléfoot dans nos téléphones et sur nos tablettes, grâce à une appli du même nom, ça vous coûtera 14,90€ sans engagement. Alors attention tout de même, vous n'aurez accès qu'aux matchs de Ligue 1 et de Ligue 2, pas à la Ligue des Champions ni à l'Europa League, avec cette formule sur le téléphone et la tablette.
Vous nous rappelez aussi, s'il vous plaît Martin, les autres offres dont vous nous parliez ces derniers jours, avec là, alors, la complète, tous les matchs.
Bien, si vous me demandez, je le fais, une offre
gentiment.
Principale. Oui, je le fais moi aussi gentiment. Une offre principale à 29,90€ par mois, avec une ristourne de 4€ si vous vous engagez sur un an. Et 29,90€ toujours pour une offre couplée Netflix Téléfoot, mais avec impossibilité de résilier avant 12 mois. J'ai un peu l'impression de présenter Téléshopping là.
Oui, pas loin, oui.
On est pas loin.
Mais sauf qu'il n'y a pas de solde. Où la chaîne est-elle disponible ?
Eh bien, sur une appli spécialement créée, sur le site internet de la chaîne et via les box SFR. Mais si vous êtes chez Orange, Bouygues, Free ou Canal, rien pour l'instant. Ah oui, puis pour la dernière info, le premier match, c'est Marseille-Saint-Etienne. Vous soutiendrez là ?
Marseille.
Bah
oui,
moi j'ai un Saint-Etienne, vous avez oublié.
On en parlera à Akhenaton tout à l'heure. Une plainte a été déposée après la mort de 8 personnes, dont 6 humanitaires français au Niger dimanche dernier.
Et depuis dimanche, des clichés où l'on voit le corps de ces 6 Français et de leurs 2 guides circulent sur Twitter. Certaines familles sont tombées dessus, on imagine leur effroi. Une plainte a donc été déposée contre X pour démasquer ceux qui tweetent et retweetent ces photos. Beaucoup de comptes d'extrême droite et des comptes pro-djihad, en l'occurrence. Cette plainte vise aussi Twitter, qui a traîné, bien trop traîné, avant de supprimer ces clichés ignobles.
Immersion, professionnalisme, on vous reconnaît bien là. Martin, vous avez regardé CNews hier avec en tête une petite phrase du patron de la chaîne Info du groupe Canal, Serge Nedjar, phrase prononcée fin juin dans Le Parisien.
Il n'y a aucune ligne politique sur CNews, voilà pour la phrase. Mais sur CNews, il y a l'heure des pros, l'émission de débat qui cartonne en fin de matinée. Je me suis mis devant lundi, 9h44, ce titre s'affiche en gros sur ma télé. Maire, policier, pompier, l'autorité en question.
Samia Maktouf, avocate au barreau de Paris, impunité pour les agresseurs de maire ?
Écoutez, je ne connais pas le dossier. On ne peut pas commenter une décision, on ne connaît pas les faits.
Heureusement, Jean Messia du Rassemblement National, lui, semble connaître le dossier.
Il y a effectivement un problème avec la justice, un problème d'impunité de manière générale, d'impunité relative.
Les titres s'enchaînent à l'écran, les maires face à la violence du quotidien, violence de point, une réponse pénale trop faible, point d'interrogation, 10h06, y a-t-il vraiment un ensauvagement de la société, 10h12, remettre le policier au cœur de la société, à 10h41, CNews change enfin de sujet.
164 détenus donc condamnés pour terrorisme en France vont sortir de prison dans les 3 ans à venir.
Mardi, je me remets devant l'heure des pros, 9h02, comme un nerd déjà vu. À nouveau, en gros, sur ma télé, la même chose, le ras-le-bol des maires agressés.
Impunité pour les agresseurs de maires, Florian Philippot, c'est ce qu'il faut comprendre, notamment après ce cas donc, que j'évoquais.
Bah, c'est ce que vivent beaucoup de Français, si vous voulez.
On est en ligne avec Robert Ménard.
Cette fois, Robert Ménard invité, proche du RN, et Florian Philippot, ex-bras droit de Marine Le Pen, son parti Les Patriotes a rassemblé 0,6% des voix aux élections européennes. 9h16, CNews reprend exactement les mêmes ingrédients que la veille. Les maires, face à la violence du quotidien encore, y a-t-il vraiment un ensauvagement de la société encore ? 9h58, cette fois, CNews s'arrête sur les chiens dangereux. 10h45, comme la veille, il est l'heure de reparler terrorisme.
Parce qu'une minute d'émission, c'est ma faute.
Mais je pense qu'il y a deux...
Pascal, que dit déjà le patron de CNews ?
Bah, je crois qu'il a dit sur CNews, il n'y a aucune ligne politique, chose comme ça.
Quelque chose comme ça, on continue. 9h30, hier mercredi, je me remets sur mon canapé, comme la veille, comme l'avant-veille. Cette question, en gros, elle m'est encore posée. Y a-t-il vraiment un ensauvagement de la société et un autre membre du RN ?
La violence, l'individualisme qui semble quand même plus que jamais présent dans notre société. Chaque jour qui passe, les faits divers se succèdent. Julien Audoul.
Oui, et malheureusement, on a une certaine tendance à s'y habituer.
9h30 passé, tiens, que faire face à la hausse de la violence ? Point d'interrogation. CNews tambourine encore avec les mêmes mots que ce martelé 48 heures plus tôt. Ah oui, il y a aussi encore maire, policier, pompier, l'autorité en question.
C'est pas un gros mot, il faut rétablir l'autorité dans ce pays, Amina Tania Katé.
10h15, copier-coller du lundi, CNews refait le débat sur le terrorisme.
164 détenus condamnés pour terrorisme qui sont dans nos prisons en France et qui sortiront dans les 3 ans à venir.
On aurait pu interchanger les phrases en face sur BFM, LCI, France Info, rien de tout ça, mais beaucoup de Covid, de la canicule et du Niger.
Ça va ? Vous avez bu une bouteille d'eau ? Pour vous laver un petit peu ?
C'est vous qui l'avez dit.
Bah oui.
Et la phrase, pas de ligne politique sur CNews.
Alors, un départ à Paris Match pour terminer, Martin.
Valérie Trierweiler est remerciée après 31 ans à Paris Match. La journaliste avait quitté le service politique en 2012, au moment où François Hollande s'installait à l'Élysée. Elle s'occupait depuis de la critique littéraire. Elle part après 31 ans remerciée.
Martin Cangelosi, merci. Savez-vous d'où partira le Tour de France, Martin, en 2021 ? C'est pas grave, c'est pas une colle. Hein. C'est
non,
juste proche,
en 2021, ils devraient partir peut-être des Pays-Bas comme c'était prévu. Non,
c'est annulé, les Pays-Bas. Finalement, ce sera depuis Brest. Mon disque du jour, voici Christophe Miossec. Belle matinée à vous.
9h, 11h, Europe 1, Culture Média. Pascal Clark.
On la voit en ce moment, Gabriel, on la voit dans les journaux récemment dans Le Monde ou dans le portrait d'air de Libération. On la voit dans un documentaire toujours en ligne et ce jusqu'à fin octobre sur arte.fr, adaptation de son livre. On la voit et ça change. Pourquoi ? Parce que Gabrielle Dédier est une femme grosse et ce n'est pas un gros mot. Si elle occupe l'espace, c'est pour témoigner et pour dénoncer l'invisibilité des personnes grosses dans l'espace public. Bonjour Gabrielle Dédier.
Bonjour.
Merci d'être dans Culture Média ce matin. Comment la vivez-vous ? Vous, cette exposition, bon, évidemment, c'est une bonne chose, mais peut-être que c'est pas si simple pour autant pour vous.
Bah, ça dépend de quoi on parle. En fait, moi, J'appréhendais l'exposition il y a 3 ans quand le livre est sorti. J'appréhendais un peu ça. Finalement, tout s'est bien passé. Après, non, c'est plutôt le côté où j'ai un peu du mal avec la pression et tout ça. Mais enfin, je vis très bien ma médiatisation et je vis très bien tout ce qui se passe autour.
Oui, parce que vous avez dit dans une interview, je veux pas être la grosse de service. Quand
ah,
même.
Ça c'est clair. Je refuse d'être la grosse de service, mais je refuse d'être essentialisée. En fait, je refuse. Enfin, je suis grosse, voilà, c'est comme ça. Et j'ai à occuper l'espace comme n'importe qui. Mais c'est tout en fait.
Ouais. Effectivement, il faut bien que quelqu'un s'y colle parce que le constat est assez accablant. C'est comme si les personnes grosses ou obèses étaient rayées de l'espace public. Et le pire, je vais vous dire honnêtement, c'est qu'avant votre témoignage, j'y pensais pas forcément parce qu'on ne pense pas à ce qu'on ne voit pas. C'est ça l'histoire.
Ben, tout à fait. En fait, tout ce qui tourne autour des gros, ce sont des impensés. Ce sont des impensés parce que ces gros, ils ne sont pas dans l'espace public. Le taux d'obésité a doublé en 15 ans. Et pourtant, on n'a pas vu plus de gros. On n'a pas vu plus de gros sur les bancs de la fac. On n'a pas vu plus de gros nulle part, en fait. Et à côté de ça, on n'a pas anticipé cette arrivée de gros, et donc soigner des gros c'est compliqué, l'accès au matériel à l'hôpital c'est compliqué, il y a plein de choses qui sont compliquées par rapport à ça. Et effectivement, on ne pense pas aux gros, parce que moi la première, j'étais surprise du nombre de personnes grosses en France.
Alors on entend ça dans votre documentaire, dont on va parler un peu plus loin, il y a ce chiffre, 10 millions de personnes obèses, on dit grosses. Enfin, ouais. C'est quoi la définition d'être gros d'abord ?
Être gros, en fait, alors si on prend la définition médicale, il y a l'IMC, l'indice de masse corporelle, et on estime qu'au-dessus de 25, on est en surpoids. Donc ça, c'est la norme médicale, et après, plus tard, il y a l'obésité. Mais en fait, on n'a pas besoin d'être gros médicalement pour être considéré comme gros socialement et esthétiquement. Donc en fait, elle est large, la définition du gros. Et effectivement, il y a le terme, enfin, l'obésité, mais là, on est dans un terme médical. Et donc, enfin, moi, je dis gros tout court.
Oui, quand vous dites 10 millions de personnes en France, ça concerne qui alors ?
L'obésité.
L'obésité.
Oui, parce qu'après, c'est 40% des personnes qui sont en surpoids. Hein.
Ouais. Donc ça veut dire 10 millions de personnes, à peu près un sixième de la population, qu'on ne voit jamais.
C'est ça. On ne les voit pas. On ne les voit pas dans les centres-villes, on ne les voit pas dans les job cadres, on ne les voit pas à la télévision, on ne les voit pas héros de films, on ne les voit pas.
Mm-hmm. Ça s'appelle de la grossophobie et vous avez pris la parole d'abord dans ce livre paru il y a 3 ans aux éditions Goutte d'Or, et qui vient de ressortir en livre de poche, toujours chez Goutte d'Or, qui lance à l'occasion sa collection de poches. Le livre s'appelle « On n'en est pas grosse ». Où en étiez-vous de votre vie, Gabrielle, quand vous avez écrit ce livre il y a 3 ans ?
J'étais sans emploi, sans allocation chômage. J'avais plus d'appartement. Je squattais ici et là chez des amis. J'étais au bord du suicide quand on m'a proposé d'écrire On n'est pas grosse, en fait. J'étais vraiment... ma vie, c'était le chaos à ce moment-là.
Parce qu'il n'y avait pas de solution.
J'avais pas de solution, j'avais perdu mon emploi, j'avais perdu mon appart, je voyais pas le bout, en fait. Et j'avais 36 ans, et ma vie, c'était... ma vie professionnelle, c'était une succession d'échecs. Et donc ça m'a plongée dans un état qui était profondément dépressif. Et la seule chose que j'envisageais à terme, c'était de me flinguer, parce que je refusais je refusais cette vie-là, je refusais cette vie de paria, je refusais d'être discret. Enfin, je refusais de vivre comme une paria, et je le supportais pas.
Mmh. Alors vous racontez dans le livre, vous venez du Gard, d'un milieu populaire. Ce qui est très frappant, c'est que vous racontez vos parents, deux corps très maigres, vos parents. Est-ce que ça a joué, croyez-vous ?
Quand ils se sont rencontrés, ouais, deux corps très maigres, et la légende familiale dit que ma mère mettait des t-shirts en taille 8 ans quand ils se sont rencontrés. Donc effectivement, alors ma mère était...
du 34 peut-être, en taille.
Oui, 32, 34, en tout cas à l'époque où ils se sont rencontrés. Et oui, ils étaient dans ces années Twiggy ou... Où se trouvait beau. Et à côté de ça, mon père, parce que ma mère s'est pas habillée en 32, 34 toute sa vie, elle est montée jusqu'au 38.
ça
mais pour mon père, c'était trop gros, en fait.
Donc il y avait cette obsession-là, quand même.
Ouais, ben bah oui, oui. Enfin, je l'ai toujours entendu lui dire qu'elle était grosse, qu'elle avait des gros bras, qu'elle avait des grosses fesses. Et donc, oui, ça, c'est quelque chose que j'ai toujours entendu.
Et psychologiquement, ça a dû jouer.
Bah, vu que j'étais plus grosse que ma mère,
ce qui est pas très compliqué.
Voilà, ouais. Même quand j'étais pas grosse, j'étais plus grosse que ma mère. Forcément. Enfin, si ma mère est trop grosse en faisant du 36-38, moi, en faisant du 40, c'est une catastrophe.
Mmh, alors, il y a ce tournant que vous racontez, la banalité. Vous avez besoin d'un jean, vous avez envie d'un jean. Vous avez 16 ans, il se passe quoi là?
Bah, il se passe que je vais avec mon père acheter ce fameux jean et je suis contente parce que je voulais un jean d'une marque et j'ai eu cette marque-là cette année. C'était vraiment le cadeau. Et le 40 ne passe pas. Il faut rentrer le ventre et vraiment très fort. Donc je prends un 42. Et en fait, quand je rentre à la maison, je montre mon jean à ma mère. Et ma mère a paniqué, mais comme panique plein de femmes quand elles passent du... La taille 40, c'est un seuil psychologique, j'ai l'impression. Et passer au 42, j'avais 16 ans, pour ma mère, c'était pas possible. Et en réalité, elle avait juste peur. Elle avait peur que ça continue et que je ne fasse que grossir.
Ouais, c'était pas tant pour l'image.
Non, c'était pas pour l'image. C'était en fait, ma mère avait une sœur aînée qui était obèse et qui avait passé sa vie dans des centres d'amaigrissement. Et je pense que ma mère avait cette terreur-là. Et puis ma mère après avait une anorexie, qui a jamais été diagnostiquée, mais elle a des comportements d'anorexique en tout cas. Et donc elle a elle-même ce truc-là qui est intégré. Et en même temps, quand on disait qu'on faisait un 42, je me souviens, moi, sur les catalogues de vente par correspondance, c'était le début des grandes tailles.
Hein. Mmh. Tout ça, là, il y a des responsabilités partout. Rapidement, on va marquer une pause, mais là, pour vous, Gabriel, commence la valse des régimes et le piège des régimes.
Tout à fait. En fait, cette Gabrielle qui a 16 ans, qui pèse 65 kilos, qui fait son premier régime, elle prend 30 kilos en quelques mois et au bout d'un an, elle a doublé son poids, en fait. Mmh.
Vous parlez d'elle à la troisième personne parce que c'est plus tout à fait vous ?
Oui, c'est plus tout à fait moi. J'ai l'impression que tout ça... Enfin, en fait, à partir du moment où j'ai écrit mon livre et qu'il est sorti, j'ai l'impression que c'était plus ça ne m'appartenait plus. Enfin, il y avait vraiment quelque chose de... Comme si tout ça, ça avait existé, c'était là, mais ce n'était plus ça.
Mmh. On va continuer à parler de votre expérience, Gabrielle Dédier, du documentaire aussi, On achève bien les gros. Restez là, s'il vous plaît, à tout de suite.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Pascal Clark.
Rien n'est adapté dans la vie quotidienne quand on est gros, que ce serait comme un vêtement qui ne va pas bien. Et c'est notamment ce que vous montrez, Gabrielle Dédier, dans le documentaire toujours en ligne sur arte.fr, On achève bien les gros. Vous avez une formule assez drôle d'ailleurs, parce que vous avez beaucoup de dérision sur vous-même. Vous dites, je mesure une Kylie Minogue et j'en pèse 3. Faut dire que Kylie Minogue n'est pas très grande.
Elle est ni très grande ni très grosse.
Oui, oui. 1m54, 125 kilos, c'est toujours le cas ?
Grosso modo, oui. Mais oui. Mais il y a 3 ans, je pesais 4 Kylie Minogue, donc je suis ravie.
Ah ouais, donc vous êtes sur la bonne voie.
En tout cas pour moi.
Ouais. Les places d'avion, les places dans les théâtres avec leurs accoudoirs, chez le médecin parfois, chez le dentiste, rien ne va. Et vous, ça vous met en colère, ça vous met en rage ?
Ça me met en rage parce que je me dis que quand je rentre dans une salle d'attente et que je ne peux pas m'asseoir chez le médecin, je me demande comment je vais être accueillie, en fait. Il se trouve qu'il y a quelque chose qui moi, m'interroge beaucoup, c'est que quand je vais chez l'esthéticienne, je n'ai pas ce problème-là. J'ai aucune esthéticienne qui a des sièges à accoudoir et j'ai aucune esthéticienne qui m'a dit un jour, vous ne pouvez pas monter sur la table, vous allez l'écrouler.
Qu'est-ce que vous voulez dire par là, alors ?
Il y a une culpabilisation des gros, en fait, et je pense que certains médecins... En fait, on sait qu'on ne sait pas soigner l'obésité. On sait que 95% des régimes sont des échecs. On continue à en prescrire. Quand on nous parle de rééquilibrage alimentaire, ça reste un régime, en fait. Donc, en fait, je pense qu'on met face... l'échec de ceci. En fait,
c'est le miroir de leur échec. Vous êtes le miroir de leur échec.
Complètement. Et puis, bah, y en a pour qui ça, c'est pas un souci et ça va très bien, mais il y en a qui le vivent très mal. Et notamment, pour prendre l'attention, c'est quand même pas compliqué aujourd'hui d'avoir un brassard avec une rallonge. Et en fait, on peut aussi prendre l'attention plus bas et c'est pas grave. Sauf qu'il y a des médecins qui refusent en fait de s'équiper d'une rallonge de brassard et qui vous disent ben non, faites-vous opérer et vous pourrez prendre votre tension normalement en fait.
Ce sont des choses que vous avez entendues.
Oui, complètement. Et non seulement j'ai entendu, mais après, enfin quand j'ai enquêté, même moi, j'ai entendu des choses, mais qui étaient mais tellement horribles en fait pour ces personnes grosses. Donc voilà, des refus de contraception parce que ben non, enfin vous allez, enfin soit on estime que vous n'avez pas de vie sexuelle parce que vous êtes grosse, soit on estime que vous n'avez pas besoin de prendre la pilule, par exemple, parce que vous allez encore grossir.
Alors ça, c'est une question qui revient souvent. Les personnes grosses ont-elles une vie sexuelle ? Dans le documentaire, vous retournez dans votre lycée d'Uzès, dans le Gard, au passage, là où vous avez été harcelée, ouais. Là où vous avez subi de l'échec scolaire. Débat avec des lycéens, extrait.
Je voudrais savoir s'il y en a parmi vous qui se trouvent gros.
Non, c'est bon.
Donc on a deux réponses, et les deux réponses, ce sont des filles. Là, c'est à votre tour de me poser les questions, et vous me posez toutes les questions que vous pouvez. Donc, oui.
J'avais une question. Est-ce que vous avez déjà eu des relations sexuelles?
Oui. Oui. Oui, j'ai déjà eu des relations. Je ne suis pas vierge.
Est-ce que ça vous blesse particulièrement ou pas plus que le reste, finalement?
Non, ça me blesse. En fait, de la part des élèves de 15 ans, ça ne me blesse pas du tout parce qu'eux-mêmes sont dans des questionnements sur la sexualité. On a toute une mystique sur la sexualité quand on est ado. Ce qui me vexe, c'est quand ce sont des adultes qui me posent la question, des adultes à des soirées un peu branchées à Paris, quoi.
Il y a des gens qui vous posent la question?
Ah oui, clairement, ça, on m'a déjà posé la question.
Comment réagissez-vous dans ces cas-là?
Bah, je ris, quoi, parce que c'est tellement ridicule, ouais. En fait, mais enfin oui, c'est vexant. Et après, je sais très bien ce que projettent les gens sur ça, en fait. Ils disent que si c'était eux, ce serait pas possible, mais comme on a pu me dire, moi, si j'étais toi, je me serais suicidée il y a longtemps. Ce sont des phrases qu'on entend, en fait, et qui sortent très naturellement, sans filtre.
Pire que tout, peut-être le marché de l'emploi, bien plus compliqué quand on est gros de trouver un emploi. Et encore pire pour une grosse, parce que c'est toujours plus compliqué pour les femmes.
C'est ça. En fait, une femme obèse est 8 fois moins employable qu'une femme qui ne l'est pas. Un homme obèse est 3 fois moins employable qu'un homme qui ne l'est pas. L'homme obèse, une fois qu'il est employé, il évolue normalement dans la société, l'entreprise. La femme obèse, en fait, elle a son plafond de verre qui est beaucoup plus bas que la femme en général dans l'entreprise.
Mmh. Ce sont des chiffres hallucinants quand même. Il y a des victoires personnelles, comme ce jour où vous vous racontez que ce jour où vous décidez, du côté de Montpellier, de tenter l'expérience d'une plage naturiste. Et curieusement, je dis curieusement, je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça, ça se passe très très bien.
C'est ça, en fait. J'étais à une époque où je n'osais pas me mettre en t-shirt, donc me mettre en maillot. Enfin, de mes 17 à 23 ans, je n'ai pas osé me baigner. Et il se trouve que mon endocrinologue, très féministe, vraiment avec des discours sur le corps et sur Libérez-vous, qui était assez puissant, me dit qu'elle est naturiste et que depuis qu'elle est naturiste, elle n'a plus de complexe. Et donc, je mets un an à réfléchir le truc et un jour, j'y vais. Et en fait, il ne s'est rien passé. Enfin, il s'est juste passé que j'étais bien, que je me suis baignée dans la mer nue. Et le lendemain, je suis allée acheter un maillot et je ne me suis plus jamais empêchée d'aller me baigner.
Mmh. Est-ce que vos témoignages qu'on peut lire dans N'est pas grosse, en poche, aux éditions de la Goutte d'Or, dans le doc, est-ce que ces témoignages peuvent changer les choses? Est-ce que vous avez de l'espoir, Gabrielle Dédier?
Honnêtement,
non.
Non. Non, je vais pas mentir, j'ai pas vraiment d'espoir. J'ai de l'espoir au niveau politique publique, que, enfin, à ce niveau-là, j'ai de l'espoir que oui, on prenne en compte comment soigner le patient obèse ou comment l'accompagner ou comment le traiter, de tout simplement, sur l'emploi. Enfin, moi, je rêverais juste qu'on vive dans une société où on embauche à la compétence et pas au léchage de bottes sur une lettre de motivation, en fait. Mmh. Donc voilà, moi, j'ai ces désirs-là. Après, moi, j'ai pas l'impression que. Enfin, moi, j'ai pas vraiment d'espoir, mais c'est important d'en parler. C'est important que le. Enfin, tous les jours, je reçois des tas de messages de personnes qui me disent je savais pas qu'il y avait d'autres gens comme moi. Je savais. Enfin, qui découvrent, en fait, qui se sentaient seuls et qui, du coup, osent en parler. Et ça, c'est indispensable, en fait, de montrer qu'on est là, de montrer que oui. On va occuper cet espace public, qu'on nous le refuse ou pas, en fait.
Mmh. Merci beaucoup, Gabrielle Dédier, d'être passée par Culture Média. Vous écrivez en ce moment ?
J'écris, oui. Mon premier roman.
Ça, c'est bien. On ne naît pas gros en poche, et le doc, on achève bien les gros sur arte.fr. Merci beaucoup.
Merci.
Avant de retrouver Dominique Besnéard à Angoulême, pourquoi ? Non, c'est vrai, pourquoi pas ? Écoutez, la rappeuse espagnole Rosalia. C'est vrai ? Pourquoi pas ?
9h, 11h, Europe 1, Culture Média. Pascal Clark.
Il ne manquerait plus, entre autres effets secondaires, que le Covid-19, à la longue, rende superstitieux. Dans 15 jours s'ouvre à Angoulême la 13e édition du Festival du film francophone. Une soixantaine de films y seront projetés, dont 10 en compétition. Un rendez-vous important à l'issue d'un été pourri pour les salles de cinéma. Dans Culture Média ce matin, l'un des délégués généraux du Festival d'Angoulême, Dominique Besnéard, bonjour.
Bonjour Pascal.
Est-elle forcément spéciale cette 13e édition, Dominique Besnéard, oui et non ?
Ah bah ça est très spécial, d'autant plus qu'on a mis du temps à décider si on allait la faire ou pas, parce qu'on a vu que plein de festivals ne se sont pas faits, notamment Cannes, c'est quand même la première fois que ça arrive depuis la Seconde Guerre mondiale. Donc on s'est dit, mais ça ne se fera jamais. Et au fur et à mesure des bonnes nouvelles du début du déconfinement, on s'est dit, bon, on va y aller. Voilà, on a été très aidés, appuyés par le CNC. Le CNC a fait vraiment un boulot important avec nous parce que il sentait bien qu'il n'y aurait pas de vitrine pour le cinéma, puisque Cannes, c'est quand même la plus belle vitrine. Mmh. Et nous, même si on a un festival qui fonctionne bien, c'est pas un festival, il n'y a pas de marché, tout ça. Mmh. Bien que c'est là que depuis 13 ans, mais cette année, on va pas appeler la 13e édition parce que il y a assez de malheurs comme ça. On appelle l'édition 2020.
Oui, 2020, c'est bien.
Et c'est mieux. Et donc, voilà, donc on va accueillir 60 films. Et franchement, on a vu des films absolument extraordinaires. Que le cinéma français est en vraiment bonne santé dans toute sa diversité. Et ça serait vraiment dommage de ne pas l'exposer au public.
Ouais, puisque vous évoquiez l'annulation de Cannes, je précise que vous accordez comme une session de rattrapage au Festival de Cannes avec une carte blanche à la Semaine de la Critique. Dominique Besnéard, il y a un paradoxe, il y a un décalage, parce que sur le papier, votre programmation, elle est goûteuse. Hein. Beaucoup de films attendus, en compétition ou en avant-première, j'en cite quelques-uns. Effacer l'historique du duo Gustave Kervern-Benoît Delépine, qui préside d'ailleurs le jury. Il y a Police d'Anne Fontaine, il y a Adieu les cons d'Albert Dupontel, il y en a bien d'autres, mais est-ce que le climat actuel, le climat ambiant ne va pas nuire à la fête ?
Non, parce qu'on a décidé justement pour respecter les gestes barrières et la distanciation physique, tout le monde réserve par Internet. Donc il y aura, parce que le truc de Angoulême, ce qui plaît vraiment à Angoulême, c'est les files d'attente, parce que les gens font des rencontres, ils n'ont pas peur d'attendre, ils acceptent d'attendre pendant un certain temps. Et là, donc, ils ne vont pas attendre, donc ils vont savoir exactement leur place et tout ça. Donc, si vous voulez, il n'y a pas de panique là-dessus. Bien sûr, on attend toujours, j'espère qu'on ne va pas avoir un foyer d'infection à Angoulême, mais vous savez, Angoulême a été très protégé pendant la Covid, il y a presque eu très peu de cas dans la région. Si les cas viennent, ils viennent des gens de cinéma qui prendront le TGV pour venir.
Ça, c'est un risque. De la même façon que souvent les touristes apportent le Covid sur les lieux de vacances. Quelles mesures sanitaires précisément ? Donc pas de file d'attente, vous venez de le dire, Dominique Besnéard. Mais dans les salles, masque obligatoire pour tout le monde ?
Masque obligatoire et puis surtout, alors on attend, au début c'était 50% de la fréquentation par représentation, enfin par séance. Maintenant, je pense qu'on est arrivé à 70. On est un peu au diapason de ce que nous dit la préfecture. Cela dit, la préfecture a été vraiment, c'était pas la personne avec le fouet. Au contraire, la préfète est quelqu'un qui écoute et elle connaît Angoulême. Pour l'économie aussi, c'est très important parce que tous les hôtels ont été fermés. Le festival d'Angoulême, l'année dernière, avait 40 000 personnes. Donc ça fait de l'économie, ça fait vivre plein de choses. Donc cette année, bien sûr qu'on sera pas à 40 000, mais voilà, donc on va essayer de respecter, mais surtout de redonner envie d'aller au cinéma. Parce que quand vous dites que c'est un été noir, c'est un été noir. Et moi, j'espère que les gens n'ont pas pris trop de mauvaises habitudes de regarder la télévision, les plateformes, et d'oublier que le cinéma, c'est dans les salles.
Oui, le cinéma, c'est dans les salles, mais parfois, on ne peut pas forcer les gens à aller dans les salles. Vous voyez, s'ils ont des craintes, s'ils n'ont pas envie de salle de cinéma, c'est comme ça, on ne peut pas les forcer.
Oui, mais moi qui prends le train, qui prends le métro, qui prends le bus, il y a peut-être plus de risques que dans une salle de cinéma, surtout les salles du CGRL sont très clean, on nettoie entre chaque représentation, chaque séance. Vous imaginez, on rentre dans la salle, on a les mains avec du gel. Enfin bon, il y a un moment donné, il faut que la vie continue aussi.
En tout cas, on va écouter votre bonne annonce parce qu'elle vaut le détour de Nick Messner, la bande annonce du festival, qui est, comment dire, un peu kitsch, mais ça fait son charme.
Mais c'est toujours kitsch.
Sur l'écran noir de ma nuit blanche, moi je me fais du cinéma.
Venez nombreux du 28 août au 2 septembre dans le nouveau temple des cinéphiles, Angoulême, avec une vingtaine d'avant-premières, des films en compétition, presque tous inédits, et d'autres événements. Le renouveau de la vie est à Angoulême, du 28 août au 2 septembre, au FFA.
Ah ben là, tout y est.
Le renouveau de la vie, c'est pas mal.
C'est pas mal, c'est un peu, comment dire, un peu osé.
C'est un peu politique, on se croirait après l'occupation, vous voyez, le retour à la vie.
En tout cas, au diable la superstition, Dominique Messner, en ce jeudi 13, on est le 13 aujourd'hui, figurez-vous. Nous allons plonger dans un instant dans la programmation de la 13e édition du Festival d'Angoulême. Vite, vite, touchons du bois. À tout de suite.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Pascal Clark.
Et pour votre santé, allez au ciné. C'est le rendez-vous qui lance à la fin de l'été la saison de cinéma, le festival du film francophone d'Angoulême à partir du 28 août. Dominique Messner, quand vous avez imaginé cette manifestation il y a 13 ans maintenant, qu'aviez-vous en tête pour l'esprit de ce festival ?
D'abord, j'ai été appelé par une amie importante dans l'histoire d'Europe numéro 1, c'est Marie-France Bruyère.
Évidemment.
C'est elle qui a d'abord eu l'idée du festival. Elle avait pris un peu une distance avec la télévision et avec la radio, surtout avec la télévision. Et elle s'était dit, mais moi, il faut que je fasse quelque chose. Et elle m'a appelé. Et on se connaissait de loin. Et c'est vrai qu'ensuite, on s'est dit, mais c'est une très bonne idée. Alors, mon envie, moi, ça a toujours été de vouloir partager. Moi, j'ai eu des profs qui m'ont permis de m'épanouir, d'amener la culture. J'ai une prof de français qui a été décisive pour ma vie. Et ben, je voulais pas être le prof de français de toute la population d'Angoulême, mais j'avais vraiment envie de transmettre l'amour du cinéma et surtout dans toute sa diversité. Parce que à Angoulême, on a à la fois une compétition qui est assez pointue, avec une idée du cinéma. Il y a des avant-premières, il y a des rétrospectives. Enfin, c'est un peu mon amour du cinéma. Moi, j'aime à la fois beaucoup la nostalgie. Je place au cinéma tous les lundis sur France 5. Donc, et puis en même temps, connaître et faire partager. En fin de compte, c'est mon idée de partage. Ma citoyenneté, elle est là. Voilà.
Et pourquoi ce choix d'Angoulême qui est déjà bien trusté par le festival
de BD. Mais l'été, il n'y avait rien. Mais c'est un peu aussi, d'abord, grâce à Marie-France, mais aussi à une autre dame qui est maintenant disparue de ma vie, qui est Ségolène Royal. À l'époque, j'étais très... j'étais très virulent, très passionné de Ségolène Royal, et elle m'avait dit, mais il faut absolument que vous fassiez quelque chose à Angoulême, et elle voulait peut-être aussi avoir son festival, et en fin de compte, ça s'est pas très bien passé, puisqu'après deux ans, Elle est partie.
Elle n'est pas invitée.
Mais le festival est resté.
Ouais. Les choses ne se passent jamais comme on les prévoit. Il y a ce qu'on imagine avant. Au bout de 13 ans, comment le festival d'Angoulême a-t-il évolué selon vous ?
Eh bien, déjà, le festival a évolué parce que d'abord, il y a l'idée de la francophonie quand même qui est toujours là. Et on est très présent. Alors, cette année, on devait faire l'Algérie comme pays invité. Mm-hmm. Mais bien sûr, on a tout arrêté. Donc, cette année, le pays invité, c'est le Groland. Vous comprenez pourquoi. Et ça va être drôle parce qu'on va mettre le drapeau du Groland à la mairie, à côté du drapeau.
Ah oui,
de
vous jouez vraiment la fiction culte des présidents du jury de l'Épine et Carverne.
Voilà. Et sinon, comment ça a évolué ? C'est que ça a évolué vraiment. Au début, c'était un petit peu un festival régional. Et avec le temps, on est devenu vraiment une plateforme et plateforme et plate forte pour la rentrée, voilà, parce que là, il y a tout le cinéma francophone qui est là, si bien québécois, belge, là où on parle français.
Les Québécois vont venir.
Non, cette année, ils viennent pas Et cette année, honnêtement, parce que j'essaye quand même dans la compétition d'avoir un sens pointu de la sélection. Et c'est vrai que cette année, les films québécois, on n'a pas jugé qu'ils étaient excellents pour les mettre en face de toute Antoinette dans les Cévennes, de Petit Pays, de Brahim, d'Un Triomphe, qui sont vraiment des pépites. Et là, franchement, on a préféré passer cette année avec le Québec.
Mmh. Y a 10 films en compétition, vous venez d'en citer quelques-uns. On n'a pas le temps de tous les nommer, mais comment s'établit votre sélection, Dominique Besnéard, et est-ce que vous avez repéré une thématique ? Il y a des lignes communes dans les films que vous présentez ?
Cette année, il y a quand même beaucoup. Les femmes sont très présentes cette année, tant mieux, hein, parce que j'ai jamais vu, presque toutes les actrices du cinéma français vont être là. Il y a à la fois Isabelle Adjani, Isabelle Huppert, Nathalie Baye, Emmanuel Béard, Virginie Efira, Corinne Maziero, Blanche Gardin. Il n'y a que des femmes. Et moi, je suis ravi.
Ouais. Après, ça ne suffit pas d'être une femme, on est d'accord. Mais ça...
Je suis d'accord, mais de temps en temps, on a l'impression que... Enfin, moi, j'ai toujours aimé les actrices, donc je prêche pour ma paroisse, mais c'est vrai que c'est très important que les femmes soient vraiment... Mmh. Du reste, Angoulême, on a été le premier jury, il y a quelques années, à faire un jury que de femmes, avec un pauvre homme qui était Podalides. Et je pense que vous lui demanderez qu'il vous raconte, quand vous le verrez, son jury.
Les récompenses s'appellent les Valois. Donc, l'occupante actuelle de la rue de Valois s'appelle Roselyne Bachelot. Est-ce que c'est un bon choix comme ministre de la Culture ? Vous la connaissez bien ?
Je suis absolument pour. D'autant plus que je la connais depuis assez longtemps, parce que je suis d'Angers. Et c'est vrai qu'elle, par rapport au théâtre, le quai, tout ça, elle s'est vraiment battue pour que la vie culturelle soit importante à Angers. Et puis moi, je vais vous dire, moi, l'opéra, c'est pas forcément l'endroit où je suis le plus à l'aise, mais j'adore. Mais si vous voulez, quand elle n'était plus ministre, et quand elle était tout simplement revenue dans la vie civile et peut-être comme présentatrice, comme journaliste, elle venait chaque année à Angoulême. Voilà, elle prenait son train, elle ne demandait rien à personne, elle voyait des films. Mmh. À moi, tout simplement, ça me touche. Voilà.
Bien sûr. Au-delà de la belle affiche d'Angoulême cette année, quel est le climat actuellement chez les gens du cinéma, Dominique Besnéard, que vous côtoyez ? On le redit, c'est un été noir dans les salles. Il y a du découragement ?
Bah oui, surtout, je pense qu'il y a du découragement, mais moi je pense que là, dès que ça va... Enfin, moi je pense qu'au cinéma, il sera toujours là, donc... Non, mais il y a surtout du découragement pour trouver le financement. Mmh. Je parle pas pour les téléfilms, mais pour les séries, parce que les séries, maintenant, sont toutes reparties. Mais le financement des films, en ce moment, c'est compliqué, hein, parce que les montants sont beaucoup moins importants. Moi, je fais la suite de Mince Alors, La Rechute, mmh, qui était une comédie populaire que j'avais fait, qui avait très très bien marché. Eh ben, on n'a pas l'argent qu'on aurait dû avoir après un succès pareil.
Donc le film ne se monte pas pour l'instant.
Ah si, il va se monter. Attendez, il va se monter. Vous me connaissez pas.
Hein. Il se montera, mais avec moins d'argent.
Oui, mais en même temps, voilà. Mais moi, faut pas perdre. Il ne faut pas perdre l'énergie, il faut se battre. Voilà.
Mmh. On voit, lors de cet été où la fréquentation n'est pas au rendez-vous, la dépendance quand même des salles de cinéma vis-à-vis des grosses productions américaines. Alors, on ne le découvre pas totalement, mais à ce point-là, quand même.
Bah oui, mais chaque année, ça entraîne le cinéma aussi. C'est important aussi, je vois bien... Là, tout le monde attend la sortie du film de Nolan. Je pense que ça va être un déclic, mais c'est le 26 août, donc c'est presque la rentrée des
classes. C'est la fin d'été, oui.
Mais en fin de compte, c'est les Américains qui ont à se plaindre plus que nous, parce que, je veux dire, les situations là-bas... Moi, j'ai plein d'amis qui travaillent dans le cinéma, c'est dramatique, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de quoi vivre. C'est des gens qui gagnaient bien leur vie, ils n'ont aucun chômage partiel.
Ah, il n'y a pas d'intermittence là-bas, non?
Ah non, mais c'est terrible là-bas. Et puis des gens qui se retrouvent avec qui avaient des bons salaires, parce qu'on travaille dans le cinéma à New York, et qui là maintenant n'ont plus rien. Ils ont leur loyer, ils ne peuvent même pas le payer. Donc je pense que moi je suis toujours un peu positif, mais je pense que le cinéma va redémarrer. Voyons, essayons aussi de respecter les gestes barrières. Mmh. Et puis je pense que déjà ça serait. Comment ça se passe du reste en Mayenne? Tout d'un coup, parlant de la Mayenne, ça s'est arrangé. Donc.
Bah oui, ça peut s'arranger, mais il faut être quand même très vigilant. On vous souhaite un bon festival d'Angoulême.
Attendez, je voulais quand même vous dire quelque chose. D'abord, je suis content de vous réécouter parce que je vous aime beaucoup.
Ah, je vous remercie, ça fait plaisir.
Bah ouais, mais je le dis.
Ça vaut le coup de déborder finalement.
Et l'autre chose aussi, c'est qu'on présente 10% pour la première fois Angoulême, les deux premiers épisodes gratuits. Voilà. Et donc, c'est le cadeau que j'offre à la population.
Ah, bah, c'est super. C'est une bonne nouvelle. Merci, Dominique Besnéard. Bonne journée à vous. Bientôt 10h. Vite, allez, on voit la pub.
Europe 1, Culture Média. Pascal Clark.